Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Perrine Suquet est là, Margot Agnès également, c'est Philippe Duval qui est à la technique de l'heure du crime aujourd'hui. Et à la une, vous l'avez entendu, on en parlait avec Christelle Revière et Vincent Parisot juste avant les infos. C'est une demande récurrente des auditeurs de l'heure du crime. Vous savez que par l'intermédiaire de RTL.fr, si vous allez à la page de l'heure du crime, vous pouvez soumettre des idées d'émissions à l'heure du crime, nous dire... nous parler en fait d'affaires qui vous ont particulièrement marqué, et c'est peu de dire que l'affaire Allègre a marqué beaucoup de personnes en France et d'ailleurs aussi à l'étranger. On est là avec peut-être l'affaire criminelle du siècle, et nous allons tenter de répondre à un certain nombre des questions qui se posent encore aujourd'hui. D'abord savoir pourquoi et comment un tueur en série comme Patrice Allègre a pu sévir aussi longtemps avant d'être identifié et arrêté, et puis aussi le nombre total de victimes, parce qu'il y a, on y reviendra tout à l'heure avec mes invités, comme dans l'affaire Fourniret, on a parlé de période blanche, c'est-à-dire une période où il n'y a pas de meurtre répertorié de Patrice Allègre, ça dure plusieurs années. On peut se demander si il a vraiment cessé de tuer pendant toutes ces années. On va en parler avec entre autres Michel Roussel. Michel Roussel est l'ancien directeur d'enquête de la cellule homicide 31, cellule de la gendarmerie nationale, et il s'est exprimé, il est revenu sur l'ensemble de cette affaire dans le cadre d'un livre que vous avez peut-être lu, homicide 31, au cœur de l'affaire Allègre. L'ex-directeur d'enquête parle. Vous êtes en ligne depuis Toulouse. Michel Roussel, bonjour.
Bonjour.
Près de vous, maître Pierre Alfort. Bonjour maître.
Bonjour.
Et vous êtes avocat au barreau de Toulouse. Vous avez été l'un des avocats de Patrice Allègre de septembre 1997 à juin 2003. Avec vous, on reviendra sur la personnalité hors norme de cet homme et sur ce pouvoir de séduction apparemment dont vous avez vous-même parlé également dans un livre après l'affaire. Et puis près de moi, c'est Jean-Marc Ducos du Parisien. Bonjour.
Bonjour Jacques.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez suivi pour le Parisien, j'allais dire, les deux affaires Allègre, parce que il y a la première affaire qu'on peut appeler l'affaire du tueur en série, et puis la deuxième affaire qui met en cause des personnalités dans la région de Toulouse, et notamment on se souvient de la mise en cause de Dominique Baudis qui par la suite évidemment a été blanchi par la justice. Mais nous allons surtout parler ensemble de la première partie de cette affaire Allègre. Vous êtes dans cette affaire dès le début, hein,
dès le début, oui, effectivement.
Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais simplement, à propos de ce que peut représenter Patrice Allègre, et notamment pour les familles de victimes, écouter un premier document RTL. C'est un document qui date de 2002, c'est-à-dire pendant le procès de Patrice Allègre. C'était le frère de Martine Mathias, qui avait été tué par Patrice Allègre en 1997, qui s'exprimait avec beaucoup d'émotion. Vous allez l'entendre au micro de Patrick Tégéraud.
Quelqu'un d'inhumain, quoi. C'est quelqu'un qui est hors du monde des humains, quoi. C'est clair pour moi aujourd'hui, hein. Quand vous voyez votre ancienne compagne vous parler de votre fille, hein, quand vous voyez un père d'une victime lui demander de parler, quand vous voyez ce matin ma sœur lui demander de parler, et que j'ai pas vu une seule larme, j'ai rien vu, j'ai vu aucune émotion dans ses yeux, rien. Ouais, c'est que moi j'appelle ça quelqu'un d'inhumain. Mais quand je dis d'inhumain, qui est hors de l'homme, quoi. C'est une bête, quoi. Tout bêtement, quoi. Je sais pas les détails terribles que je veux savoir, moi. C'est savoir comment il a rencontré, comment un tel truc a pu arriver. Pas ce qu'il a fait, parce que de toute façon, ce qu'il a fait, ça sointe des documents. C'est certainement horrible, ignoble.
Michel Roussel, donc vous étiez à l'époque à la section de recherche de la gendarmerie de Toulouse. On va parler dans un instant de l'arrestation réalisée dans la région parisienne de Patrice Allègre. Dans quelles circonstances vous avez été à même d'identifier cet homme avec vos collègues de la gendarmerie?
Il y a tout d'abord un concours de circonstances sur divers dossiers. Patrice Allègre agresse Émilie Espès comme un viol. Il va la frapper très violemment, mais ne la tuera pas. Donc cette jeune femme va déposer plainte auprès de la police. Elle est déjà, Patrice Allègre est identifié comme un agresseur et part en cavale dans l'Ariège à l'étranger sur ce fait. De façon concomitante avec l'ADN prélevé sur Émilie Espès, le juge Lemoine sur Toulouse fait une comparaison d'ADN avec un meurtre commis de longues années avant. Hein.
C'est comme ça que déjà, on sait que c'est le même agresseur. En
voilà.
Fait,
ouais. Voilà. Et concomitamment aussi, il y a une troisième affaire, le meurtre de Mireille Normand, ouais, qui avait été commis quelques mois avant. Et donc là, à nouveau, tout ça se télescope un petit peu, s'auto-alimente, et il s'allègre, et donc identifié comme un tueur en cavale, et ensuite il sera localisé à Paris où il sera arrêté.
Voilà, il sera arrêté à Châtenay-Malabry, très exactement. Et on va entendre à ce propos d'ailleurs un document qui date du surlendemain de son arrestation, en fait le lundi 8 septembre 1997, c'est dans l'édition du journal de 6h du matin sur notre antenne, on apprend donc l'arrestation d'un tueur en série.
Le journal de Philippe Robuchon.
Bonjour à tous. L'arrestation près de Paris d'un homme de 29 ans qui pourrait bien être un tueur en série. L'actualité est chargée du week-end, a quelque peu fait passer cette arrestation au second plan. Et pourtant, l'homme interpellé vendredi à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine, Patrice Allègre, 29 ans, pourrait bien être un véritable tueur en série. Samuel Goldschmidt.
Après une explosion dans un appartement parisien, les pompiers retrouvent le corps d'Isabelle, 31 ans, employée de la SNCF. Il conclut à un accident, mais les enquêteurs écartent cette thèse après avoir interpellé Patrice Allègre dans les Hauts-de-Seine. Cet ancien rugbyman, portier de discothèque, instable, amateur d'ecstasy et décrit comme un pervers sexuel dénué de tout scrupule, a en fait maquillé le meurtre d'Isabelle en accident. Et d'un seul coup, plusieurs crimes inexpliqués trouvent une solution. Patrice Allègre avoue avoir étranglé une étudiante de 19 ans en 1990. Son corps dénudé avait été retrouvé au bord d'une autoroute près de Toulouse. En juin dernier, il s'attaque à Mireille, une employée de 37 ans installée dans l'Ariège, près de Foix. La jeune femme est violée puis étranglée. Patrice Allègre n'a pas exprimé le moindre remords lors de sa garde à vue et les policiers vont poursuivre leurs recherches car au moins deux autres affaires de meurtres similaires restent à élucider dans le sud-ouest de la France.
Alors, Jean-Marc Ducos, d'ailleurs, hors micro, vous me rappeliez que cette arrestation est passée quasiment inaperçue pour le grand public. Hein.
Oui, tout à fait, parce qu'on est au lendemain de l'accident de la princesse Lady Diana à Paris. Ouais. Donc cette arrestation, elle passe quasiment inaperçue. Dans toutes les rédactions, on est focalisé sur l'accident. Ouais. Et l'arrestation du tueur en série, elle passe très clairement au second plan.
Ouais. Et Michel Roussel, alors vous faites le voyage, vous arrivez, vous, je ne sais pas s'il est détenu, enfin s'il est incarcéré à Châtenay-Malabry, mais vous le rencontrez donc avec d'autres membres de la section de recherche de Toulouse. Quel a été votre premier contact avec cet homme ?
Mais écoutez, nous arrivons, les enquêteurs toulousains, avant même qu'il soit arrêté, puisqu'il n'est que localisé, et en collaboration avec la DCPJ, donc la police parisienne qui travaille remarquablement, on le localise, et c'est les gendarmes de Versailles, le groupe d'opérations et surveillance, qui va l'interpeller. Donc je le rencontre, la première fois que je le vois, en fait, il est dans une chambre de sûreté, et il est assis sur la banquette, prostré dans son suite avec capuche, et j'observe effectivement quelqu'un qui va se révéler être hors norme.
Oui, alors, c'est-à-dire qu'en fait, il ne fait aucune difficulté pour avouer ce qu'il a fait, si j'ai bien compris.
Oh là. Si. Les difficultés sont énormes et n'ont jamais été surmontées.
Il nie. Non, d'accord. Ça, non, disons que l'évidence. Jamais dit comment il procédait, mais voilà. Sur les faits eux-mêmes.
Sur ce qui est de façon flagrante établi, il dit oui, c'est moi.
D'accord.
Ouais. La seconde réponse, c'est la pulsion insurmontable, irrépressible sexuelle, et puis on en reste là. Donc, mais si on n'y met pas vraiment tout sur la table, il n'y a pas de reconnaissance.
Oui, bien sûr. Mais quel sentiment vous donne le contact de cet homme, parce que on va en parler aussi tout à l'heure avec maître Lefort. Vous avez l'impression d'être devant quelqu'un de froid, de déterminé, d'indifférent, de nerveux. Comment il se comporte ?
Alors nerveux, oui, mais tout à fait sous contrôle. Il dénote tout à fait. J'avais déjà rencontré des meurtriers avant Patrice Allègre, mais il ne ressemble à aucun des autres meurtriers que j'avais pu rencontrer, donc tout à fait.
À cause de quoi ? À cause de quoi ?
Ah bah écoutez, il est nerveux par sa gestuelle, mais très très taiseux.
Ouais.
C'est une forteresse, je crois que c'est le professeur Zaguri, le psy, qui le qualifie de forteresse, c'est ce qui le...
Ouais. J'ai relu d'ailleurs hier soir en préparant l'émission le livre de Daniel Zaguri, L'énigme des tueurs en série, et dans les premières lignes du chapitre qu'il lui consacre à Allègre, chapitre qu'il a d'ailleurs intitulé Jekyll et Hyde en même temps. Hein, on reviendra peut-être sur cet aspect de la personnalité d'Allègre. Il dit « Il m'est difficile de dire objectivement ce que je ressens lors de ma première rencontre parce que je vois un homme dont je sais qu'il est un tueur en série, dont je connais les crimes qu'il a commis, mais ce qui me frappe, c'est que il a l'air d'attendre des experts qu'on lui explique ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. »
Oui, tout à fait. Il est pas du tout agressif, ni...
Ouais. Alors, on va revenir à vous tout à l'heure et surtout à ce qui fait que, après l'instruction, les aveux de Patrice Allègre sur un certain nombre de crimes ou de tentatives de viol, qu'est-ce qui vous a fait penser qu'il y avait une affaire peut-être beaucoup plus énorme derrière tout ça? On va faire une première pause. Avec Jean-Marc Ducos, on va dire... On va revoir le parcours de vie de Patrice Allègre et puis on va parler de sa personnalité, bien sûr, avec Maître Lefort dans un instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Patrice Allègre, la machine à tuer, c'est ainsi que l'avait qualifié un certain nombre de journalistes à l'époque quand on a commencé à savoir son parcours, à mieux savoir de quoi il était véritablement responsable. On y vient dans un instant sur ce parcours de vie, ce qui l'a amené à sauter le pas, à franchir la ligne jaune de la grande criminalité. Mais d'abord un document RTL qui date du 10 février 2002. On est à la veille du procès de Patrice Allègre devant la cour d'assises de Haute-Garonne, et notre correspondant dans la région, Patrick Tégéreau, qui a suivi toute l'affaire évidemment pour RTL, dresse sur l'antenne le portrait de cet homme de 33 ans, faussement charmeur, on y reviendra aussi, qui est jugé pour une série de viols et de meurtres absolument atroces.
Il a du succès avec les filles, mais quand elles ne lui cèdent pas, il les viole, les étrangle et martyrise leur corps. Pour Patrice Allègre, une fille qui lui plaît, c'est une chose, sa chose. Les psychiatres le traitent de prédateur urbain. Il a eu au moins 6 proies, Valérie, Martine, Laure, Mireille et Isabelle. Seule Émilie a survécu et l'a dénoncée, permettant ainsi son arrestation. Les gendarmes pensent que cette liste est loin d'être exhaustive. Allègre a beau être abruti par la drogue et l'alcool, au moment des faits, il dégrise vite pour faire disparaître les corps, maquiller ses crimes en suicide et voler tout ce qui peut se négocier. Depuis qu'il a été arrêté il y a 4 ans et demi, il est à l'isolement. Pour sa sécurité, ses co-détenus l'ont menacé plusieurs fois. Sa grand-mère lui rendait visite, mais elle est décédée il y a presque un an. Seul son avocat reste en contact, ou du moins tente de le rester, car à chaque entrevue, il faut reconquérir la confiance de cette bombe à retardement qui n'a plus de minuterie. La grande inconnue, ce sera donc son comportement devant les jurés de la Haute-Garonne. Il y a un mois, le président du tribunal a voulu le rencontrer. Cela n'a duré que quelques secondes. Votre justice, a-t-il dit, j'en ai rien à foutre.
Alors, Jean-Marc Ducos, vous êtes, vous, pour votre journal Le Parisien, penché sur l'histoire de cet homme que vous avez reconstitué. Vous avez fait une enquête de terrain, vous avez rencontré vraiment, même jusqu'à sa mère, hein, je crois, à cette époque-là. Il vient d'où ? Quelle a été son enfance, en quelques mots ?
Patrice Allègre, c'est un enfant du Sud-Ouest. Il a une solide carrure. C'est un rugbyman. Il joue d'ailleurs même très bien. Il est plutôt doué. Son père est un fonctionnaire de police. Sa mère est coiffeuse. Mais au sein de ce couple se délite vite. Il y a très souvent des disputes extrêmement violentes auxquelles le jeune Patrice assiste.
C'est un enfant quand même très très turbulent. Hein,
c'est un enfant turbulent, ouais. Parce qu'il sera très vite déscolarisé. Dès l'âge de 12 ans, il quitte l'école et il est très souvent confié à sa grand-mère Cécile, qui vit dans la cité des Isards à Toulouse. C'est là qu'il apprendra, qu'il sera à l'école du crime.
Ouais.
C'est dans cette cité où il apprendra à voler ses premières mobilettes, les premières voitures.
Ouais.
C'est là qu'il connaîtra l'univers de la toxicomanie. C'est effectivement, comme le disait très bien Patrick Tégéreau, une bombe à retardement. C'est un garçon qui est extrêmement frustré et qui a surtout appris, on va le découvrir au fur et à mesure des expertises, la haine des femmes. parce que il a des relations extrêmement tendues avec sa mère.
Alors c'est curieux parce que c'est très contradictoire. Je parlais tout à l'heure du chapitre consacré à l'aigre par le psychiatre Daniel Zaguri. Mmh. C'est la haine des femmes d'un côté, mais l'amour extraordinaire pour sa mère. Alors ça fait partie de l'énigme.
C'est extrêmement ambivalent. Mmh. Sa mère, effectivement...
Il a toujours enjolivé le personnage de sa mère qui le rendait quasiment pourtant complice de ses rencontres adultères,
ses rencontres adultères, effectivement, puisque on sait aujourd'hui qu'elle lui donnait de temps en temps un billet pour qu'il se taise ou pour qu'il s'en aille lorsqu'elle recevait tel ou tel amant chez elle à la maison.
Il a même entendu les ébats de sa mère dans la chambre d'à côté. Il en a parlé.
Il l'a souvent... Ouais.
À côté de cette admiration pour sa mère et cette complicité quand même avec sa mère, il y a une véritable haine pour son père.
Oui, parce que son père est un policier, il est CRS, donc il a une certaine rectitude, une certaine rigidité professionnelle, mais aussi familiale, à laquelle il n'adhère pas. Et c'est vrai qu'il assiste souvent à des scènes de violence entre Roland et Michel, sa mère. Ouais. Et c'est quelque chose qui l'a définitivement marqué et, pour ne pas dire, frappé.
Et alors ensuite, quand il est confié à sa grand-mère, en fait, c'est la grande liberté, parce qu'elle est incapable de le tenir.
Quand il est confié à sa grand-mère, sa grand-mère Cécile, effectivement, c'est la liberté. Quand il est à la cité des Isards, effectivement, il est livré à lui-même, il se déscolarise, il ne va plus à l'école. Il est dans la rue, il apprend à vivre dans la rue.
Ouais. Et lorsque vous avez rencontré sa mère, notamment au cours de votre enquête, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle ne pouvait pas imaginer que son fils soit un tueur en série. Elle savait qu'il était violent.
Elle a eu une phrase absolument terrible. Elle a dit « Je suis responsable de ce qu'il est devenu. » Et c'était la reconnaissance pour cette mère qui était fatiguée, diabétique, assise sur son fauteuil roulant. C'était l'aveu, je dirais, de sa propre turpitude vis-à-vis de son fils. C'est-à-dire qu'elle avait compris qu'elle l'avait finalement mal élevé. Alors, il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur, mais elle venait de comprendre, mais c'est vrai qu'elle avait été aussi encadrée, des gens étaient venus lui expliquer les choses, que voilà, ce qui était devenu son fils, malheureusement, elle emportait une part de responsabilité. Mais elle avait au moins le courage de le reconnaître.
Alors son fils, vu par les autres, on va en parler dans un instant après une pause avec Maître Pierre Alfort, qui est à Toulouse en ligne avec nous et en direct cet après-midi. Mais il faut dire que après, il y a un Patrice Allègre, nos sœurs, qui boit beaucoup, qui touche à beaucoup de produits.
Il boit beaucoup, il fréquente beaucoup les boîtes de nuit toulousaines. C'est là où il devient toxicomane, un peu dealer pour financer. C'est là où aussi il rencontre beaucoup de jeunes femmes.
Et qui est à la fois donc extrêmement séducteur, Jekyll et Hyde en même temps, comme le dit dans son livre Daniel Zaguri. Alors la pause donc, et ensuite Maître Pierre Alfort nous parlera de sa rencontre et de cette étrange séduction qui va s'opérer sur lui au fil des semaines et des mois.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Vous savez que vous pouvez toujours par l'intermédiaire d'RTL.fr en allant sur la page de l'heure du crime nous demander de programmer une émission spéciale sur une affaire qui vous a particulièrement marqué. C'était le cas de nombreux auditeurs à propos de l'affaire Patrice Allègre ou des affaires Patrice Allègre. Et aujourd'hui, on essaye d'éclairer à la fois sa personnalité, de revenir également sur ces meurtres en série qui ont frappé évidemment l'opinion à l'époque. Dans un tout petit instant, on va rejoindre Maître Pierre Alfort, qui était l'un de ses avocats avec Laurent Boguet, du barreau de Toulouse. Tous les deux, ils ont assuré sa défense. Et pour mesurer la difficulté de défendre quelqu'un comme Patrice Allègre, qui ne dit rien finalement pendant les audiences, en tout cas rien de ce qu'on attend sur le détail de ses meurtres, on va écouter un document de Patrick Tégéraud, qui est daté du 15 février 2002. C'est la cinquième journée d'audience au procès de Patrice Allègre. Et ce jour-là, cette jeune femme dont parlait M. Roussel tout à l'heure, Émilie Espèce, qui est la seule victime survivante qui a échappé donc à la mort, témoigne. Et c'est grâce à elle, on peut dire que Allègre avait été arrêté, comme il a été dit tout à l'heure. Écoutons donc ce document d'audience signé Patrick Tégéraud.
Avec aisance, vivacité, mais elle n'a pas trouvé la force de se tourner vers Allègre. Elle voulait savoir pourquoi elle avait été épargnée. Elle n'a pas eu de réponse. Il n'y a eu aucune réponse. Allègre n'a pas craqué. Ce sont ses avocats qui ont tenté le coup. Maître Boguet, d'abord, il se tourne vers Allègre. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir Émilie en face de vous ? Je suis désolé de lui avoir infligé ça. Lui demander pardon, c'est pas possible. À sa place, je ne pardonnerai pas. J'espère qu'elle pourra oublier et vivre normalement. Quand vous arrêtez la voiture, vous voulez abuser d'elle ou la tuer ? Je sais pas. Maître Alfort prend la relève. Je vais vous tutoyer, monsieur Allègre, comme je le fais depuis plus de 4 ans. J'en ai assez de tes excuses, de tes je sais pas. Reviens, t'es plus parmi nous, reviens. Parle, sois humain. Maître Alfort désigne alors les parents de Martine Mathias. Parle à monsieur Mathias. Allègre paraît de plus en plus gêné, mais reste silencieux. Joseph Mathias lance, dis ce qui s'est passé simplement. Ne te complique pas la vie, sors de ta bulle. T'es pas un animal, prouve-le. Allègre articule à peine. Je sais pas quoi dire. Et c'est l'ex-compagne, Cécile, qui crie depuis la salle. Mais si, tu sais quoi dire, parle. J'ai honte de tout ce que j'ai fait. Je sais pas comment le dire. Et le président, qui a laissé faire cet échange à plusieurs voix, s'adresse à Allègre. Ne nous dites pas pourquoi, vous pouvez même pas vous le dire à vous-même. Mais dites-nous au moins comment. Je ne sais pas non plus. Et le président conclut, vous avez encore quelques jours pour y arriver. Allègre est plié en deux, livide. Il a encaissé un coup.
Voilà, je tenais à ce qu'on entende ce papier de Patrick Tégéraud avant de parler avec vous de ces relations entre l'accusé et son défenseur, maître Alfort. Vous êtes, je crois avoir lu ça quelque part, vous êtes saisi la première fois que vous le rencontrez, vous êtes saisi par le contraste entre l'individu qui est devant vous et le dossier, les faits qui lui sont reprochés, qui sont absolument horribles.
Oui, absolument. Lors de la première vision de Patrice Allègre, j'ai été frappé par le décalage qu'il pouvait y avoir entre l'humanité qu'il pouvait dégager et l'atrocité des crimes, il n'y a pas d'autre mot, qu'il avait commis.
Oui, vous dites que dans cette conversation qui a lieu, je suppose, au parloir de la prison, en fait, si on n'était pas dans la prison, ça pourrait se passer dans un bistrot, quoi, une conversation de bistrot avec quelqu'un très à l'aise, très décontracté.
Il avait un côté... terriblement humain. C'est un homme, alors vous avez parlé de séduction, je crois qu'il ne faut pas exagérer. Mm-hmm. Patrice Allègre n'a jamais séduit, mais j'ai été, encore une fois, frappé par l'humanité qu'il pouvait dégager. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs donné la force et le courage d'assumer la défense de cet homme du début jusqu'à la fin.
Oui, mais à un moment, il a fallu que vous preniez sur vous, je pense, pour avoir le décalage nécessaire, non ? Je crois qu'un magistrat, alors c'était peut-être un mot d'audience, etc., vous appelle Maître Allègre à un moment.
Oui, il n'y a pas que magistrat qui m'a appelé Maître Allègre. Ouais. Plusieurs personnes ont fait ce lapsus, mais bien évidemment, je n'ai jamais fusionné avec cet homme, je n'ai jamais été séduit par cet homme. J'ai tout simplement cherché à le défendre, et pour le défendre, il fallait le rendre humain. Donc j'ai cherché l'humanité qu'il y avait en lui, et bien évidemment, Patrice Allègre est un être humain, c'est pas un monstre, c'est pas une bête. Mmh. Et donc mon travail a consisté à essayer justement de le ramener au rang des humains.
Mais Maître, pour défendre quelqu'un, il faut comprendre. Est-ce qu'il vous a donné des pistes pour comprendre ? Est-ce que vous avez cherché à savoir un peu à quelle logique il avait cédé ? Qu'est-ce qui s'était vraiment passé ? Est-ce qu'il a été aussi mutique avec vous qu'il l'a été pendant le procès ?
Absolument. Au début de ma relation, si je puis dire, professionnelle avec Patrice Allègre, j'espérais une explication de sa part et j'ai très vite compris qu'il n'y aurait pas d'explication et qu'il fallait, et ça c'est Zaguri qui le dit, il faut accepter à un moment d'arrêter de comprendre, d'arrêter de chercher à comprendre. Patrice Allègre ne pouvait pas m'apporter d'éléments d'explication parce que je crois qu'il ne les a pas lui-même. Pour qu'il puisse commencer à comprendre ce qui a fait qu'il est devenu un tueur en série, ça impliquerait une remise en question qui n'a même pas commencé, je crois.
Oui. C'est lui qui a mis fin à vos relations professionnelles.
Oui, c'était au moment de l'affaire Allègre-Baudis, mm-hmm. Qui a été extrêmement médiatisée, et puis Gilbert Collard est intervenu dans ce dossier parce que Patrice Allègre voulait à l'époque comme c'est une affaire très médiatique, vous voulez l'avocat le plus médiatique de France.
Oui, voilà. Peut-être conseillé aussi par des co-détenus. Mais vous êtes senti trahi à ce moment-là, ce jour-là, ou pas? Parce que lui, il a eu une réaction finalement d'indifférence par rapport à vous, alors que vous, le moins qu'on puisse dire, même s'il n'y avait pas séduction, vous n'étiez pas indifférent.
Non, mais moi, j'ai tout simplement fait mon métier pendant 7 ou 8 ans, et j'ai accepté qu'il choisisse un autre avocat. Je l'ai écrit dans mon livre, je n'allais pas être l'avocat de Patrice Allègre à perpétuité. Il fallait un moment que cela cesse. Et voilà.
Est-ce qu'il est exact que vous lui ayez dit, le jour justement où vos relations s'interrompaient, que vous répondriez favorablement si un jour il revenait vers vous pour vous demander de le défendre à nouveau?
Non, mais moi je peux défendre tout le monde, Patrice Allègre comme d'autres. Donc Patrice Allègre, dans la mesure où il me ressolliciterait ou s'il m'avait ressollicité, j'aurais pu accepter de reprendre sa défense, bien évidemment.
Alors, vous êtes un spécialiste des affaires pénales, ce sera ma dernière question là. Pour le moment, vous avez vu défiler beaucoup de personnes accusées de choses très très graves. Vous le mettez où dans ce panthéon professionnel, Patrice Allègre?
Si je peux me permettre, je le mets en tant que numéro un. Enfin, c'est bien évidemment pas tous les jours qu'on doit défendre un tueur en série. Mmh. C'est une relation professionnelle qui a duré longtemps. Je rendais visite à Patrice Allègre toutes les semaines, quasiment une heure. C'est quelqu'un que je connaissais très bien, que je connais très bien. Mais encore une fois, je suis resté sur ma faim, si je puis dire, quant à l'explication de ces meurtres.
Vous avez pensé à un moment que, parce qu'on parle toujours de l'oralité des débats, un peu du miracle parfois du processus judiciaire, quoi. Vous avez pensé à un moment qu'il allait peut-être, pendant le procès, briser la cuirasse?
Oui, j'ai tenté de le faire parler, mais l'expert Zaguri nous a indiqué lors de l'audience que Patrice Allègre était dans l'incapacité totale de pouvoir parler. Et il a même été plus loin en disant que si Patrice Allègre pouvait parler lors du procès, ce serait insupportable pour l'ensemble des personnes présentes dans la salle et que la salle d'audience se viderait complètement. C'est Zaguri qui l'a dit, et j'ai tendance à le croire également.
Je vous remercie de cet éclairage particulier qu'on tenait beaucoup à avoir aujourd'hui dans cette émission à la demande des auditeurs de l'heure du crime. On va faire une pause et ensuite on va retrouver donc Michel Roussel parler du travail de cette cellule homicide 31 et surtout du travail de Romain, il faut bien le dire aussi, qui a été effectué par cette équipe de gendarmes pour essayer de remplir les blancs du dossier, pour essayer de voir si, au-delà des meurtres et des agressions dont était accusé Patrice Allègre, il n'y avait pas peut-être une affaire d'une autre dimension. On y vient donc dans un petit instant.
L'heure du crime sur RTL.
On a parlé tout à l'heure de l'arrestation de Patrice Allègre à Châtenay-Malabry et puis ensuite l'enquête qui va mettre au jour un certain nombre de meurtres et de tentatives de viol ou de viol réalisés par le même personnage. En 2001, il est officiellement mis en cause pour 6 meurtres et 5 viols. Donc ce sont des affaires où il y a eu aveu. Évidemment, on sait qu'un an plus tard, il y aura le procès. Enfin, on pense que le procès pourra intervenir dans l'année suivante. Et Patrick Hisson, le 18 octobre 2001, donc après la mise en cause officielle de Patrice Allègre, Patrick Hisson expliquait sur l'antenne pourquoi cette mise en cause n'était certainement pas la fin de l'affaire. Écoutons.
Le tueur en série a été renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Garonne pour 5 meurtres, une tentative de meurtre commis en 89, 90 et durant l'année 97. Mais les gendarmes sont convaincus que la liste des victimes est probablement beaucoup plus longue. Comment imaginer en effet que le terrible itinéraire de Patrice Allègre ait marqué une pause de 7 ans? Les enquêteurs ont ainsi poursuivi leurs investigations et le tueur en série, qui n'a jamais, selon les gendarmes, manifesté le moindre remords, a été mis en examen l'an dernier pour 2 nouveaux meurtres commis en 90. 92, ceux d'une prostituée et d'une vendeuse toulousaine. Aujourd'hui, les enquêteurs le suspectent d'avoir également tué une mère de famille de 35 ans dont le corps a été retrouvé dans la Garonne et une jeune femme qui a disparu en 92. C'est dans le lac de Cazères, fouillé depuis 48 heures par 40 plongeurs, que les gendarmes espèrent désormais trouver les preuves de la culpabilité de Patrice Allègre dans ces deux nouvelles affaires.
Alors on retourne à Toulouse pour rejoindre maintenant Michel Roussel. Vous êtes intimement persuadé, quand je dis vous, c'est vous et vos collègues de la section de recherche de Toulouse, qu'il y a beaucoup plus derrière l'affaire que ce qui a été officiellement attribué, si j'ose dire, à Patrice Allègre.
Oui, alors on est un tout petit noyau à avoir ce sentiment. Alors un sentiment, c'est pas suffisant pour se lancer sur des choses très compliquées et très lourdes. Donc moi, je me rapproche d'un expert psychiatre qui confirme ce sentiment. Il faut savoir aussi qu'à Toulouse, nous avons un service enquêteur de très nombreux placards, passez-moi l'expression, de cadavres dans les placards.
Ouais.
Ça rentre également dans la réflexion.
Qu'on soit clair, les cadavres dans les placards, vous voulez parler d'affaires non résolues ?
D'affaires de meurtres non résolus ou de suicides qui ont laissé des souvenirs un petit peu ambigus aux uns et aux autres. Donc on a tout ce passif qui n'est pas géré, qui est pudiquement au fond de placards ou de vieilles armoires. Enfin bref.
Et c'est là où vous allez faire un travail de Romain, quoi, pour je crois, avec un logiciel qui s'appelle Anacrime, d'essayer de trouver des liens avec d'autres affaires. Hein.
Mais en fait, le début de tout ça est possible grâce à une nouvelle technique, effectivement, qui s'appelle l'analyse criminelle, opérationnelle et stratégique. Moi, je suis formé à Paris dans un stage européen avec des Anglais, enfin bref, et qui nous donne un nouvel outil, effectivement, pour appréhender ce type de situation. Et donc, un défi est lancé. Voyons si ça fonctionne. Et ça va fonctionner, effectivement.
Alors, c'est-à-dire que vous mettez, par le biais de ce logiciel, vous découpez, si j'ose dire, les scénarios, les éléments de constatation faits sur les crimes avérés pour essayer de voir s'il n'y a pas des correspondances avec d'autres affaires. Vous avez un exemple, par exemple, de match comme ça entre une affaire non résolue qui a été attribuée finalement à Patrice Allègre.
Ah bah écoutez, vous citiez Hélène Rode tout à l'heure. Oui, ce cas-là sort avec Anacrime, c'est-à-dire qu'on a Patrice Allègre parmi les discussions que j'ai avec lui qui fréquente le lac de Cazères, et on a en entrant X dizaines de dossiers de meurtres, disparitions, de suicides un petit peu douteuses, on a des concordances et on ouvre donc comme ça, de manière embryonnaire, des nouveaux dossiers qui vont amener en 3 ans à 6 nouvelles mises en examen de Patrice Allègre.
Alors, entre-temps, évidemment, vous avez des auditions, vous avez des interrogatoires avec lui. Vous l'interrogez notamment sur cette fameuse période blanche. Là, je voudrais que vous nous en disiez plus sur cette période de 7 ans. Elle va de quelle année à quelle année? Il tue avant une certaine date, il tue après, il y a 7 ans entre-temps. C'est entre quelle année et quelle année?
Alors le trou se trouve entre 90 et 97.
Oui.
Et effectivement, lorsqu'on observe l'écart entre deux faits avérés, pas des suspects, des faits vraiment reconnus pour lesquels il est condamné, donc on a le meurtre de Valérie Tariot en février 89 et ensuite le meurtre de Laure Martinet en janvier 90, il y a 11 mois.
Oui.
Donc on peut considérer qu'au tout début de son activité criminelle, supposée, il peut très bien avoir débuté avant. En 11 mois, il commet 2 meurtres. Ensuite, plus rien jusqu'à 97.
Et là, ça va s'accélérer. La succession de crimes va s'accélérer.
Encore une fois, de meurtres reconnus et avérés. Effectivement, on a 2 mois d'écart entre Isabelle Chichery, l'agression, et le meurtre de Mireille Normand. Et seulement 3 semaines entre le meurtre de Martine Mathias et d'Émilie Espèce.
Jean-Marc Ducos.
Émilie Espèce est effectivement la survivante, Isabelle Chichery, la dernière victime de Patrice Allègre, puisqu'on va l'interpeller 3 jours après, donc 3 jours trop tard.
C'est vrai que pour expliquer ce blanc, certains avaient avancé le fait qu'à l'époque, il avait une relation amoureuse stable, mais même si elle était parfois un peu chaotique, avec Cécile Chambert, la mère de sa fille. Alors c'est vrai que cette période de blanc pour un tueur en série, c'est éminemment suspect, on pourrait en discuter pendant des heures. Alors est-ce que cette liaison avec Cécile lui a permis d'avoir un répit dans sa vie de criminel? C'est ce que certains avaient avancer.
Vous n'y croyez pas trop, Michel Roussel.
Mais écoutez, moi, j'ai un avis personnel qui, effectivement, fait que je n'y crois pas, parce qu'on a observé son activité délictuelle, consommation de stupéfiants et autres. Et il est dans une spirale ascendante, donc il n'y a pas de raison que cette même spirale criminelle ne soit pas calquée dessus. Mmh. Et puis, on peut s'en remettre à l'expertise de Patrice Allègre lui-même. Lorsque j'aborde avec lui le cas d'Émile Louis, il m'a dit, le vieux Louis, il a commencé, je ne sais plus à quelle année il avait commencé ses faits. Patrice me dit, il ne s'est certainement pas arrêté. Donc, avis d'expert.
Est-ce que c'est exact, parce que j'ai lu ça quelque part, mais je vérifie puisque vous êtes là en direct avec nous. Il vous aurait dit à ce moment-là, d'ailleurs, moi je me suis bien arrêté 2 ans.
Oui,
il n'a pas dit je me suis bien arrêté 7 ans. Quoi.
Dizaines d'heures de discussion et d'interrogatoire que l'on a, effectivement, il se coupe à plusieurs reprises, mais dès qu'on veut faire préciser, il réalise le lapsus et il corrige.
Oui, monsieur Bradel, je peux me permettre d'intervenir.
Je vous en prie, maître.
Monsieur Roussel, vous disiez il y a quelques instants qu'il y avait eu 6 mises en examen. Il faut pas oublier de dire aussi qu'il y a eu 6 non-lieux. La justice a rendu 6 non-lieux. Donc, manifestement, si on croit en la justice, Patrice Allègre
n'est pas responsable
de ces 6 meurtres. Je veux dire, à un moment, on a cherché à lui mettre sur le dos des crimes que manifestement il n'avait pas commis. Ouais. Et on sait où ça nous a mené. Dire, avec l'affaire Body, c'est des implications beaucoup plus importantes, extrêmement dramatiques et graves, notamment pour Dominique Body. Ouais,
c'était effectivement le premier étage de la fusée qui allait mener à l'affaire Body, mais c'est vrai aussi qu'on reste un peu sur notre faim, parce que les meurtres de Valérie Réorda, Corinne Lazzari, Hélène Loubradou, Madame Mortesagne ou Hélène Rode, bon, c'est vrai que c'est des dossiers alors, qui aujourd'hui ne sont pas imputés à Patrice Allègre, mais... Voilà, il y avait une certaine incurie de la police toulousaine, parce que là, c'est des crimes urbains.
Voilà, si vous permettez, là, je pense qu'il ne faut pas se payer de mots.
Oui. Alors, dites-moi, excusez-moi, on est en direct total, donc comme vous êtes loin de moi, je ne peux pas vous faire des signes. On va faire une pause qui était prévue, et puis on se retrouve tout de suite après, et on continue la conversation, d'accord? Et on ne se payera pas de mots.
Allez.
L'heure du crime sur RTL.
On évoque le parcours, l'itinéraire sanglant de Patrice Allègre et on était en train de parler avec vous, Michel Roussel. Je vous ai interrompu au moment où vous disiez ne nous payons pas de mots. Maître Alfort venait de faire remarquer que parmi les affaires qui avaient été mises, si vous me passez l'expression, sur le dos d'Allègre, il y a eu quand même six acquittements d'ailleurs, mais 6 non-lieux, quoi, tout simplement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une tendance, Michel Roussel, à avoir la marque d'Allègre dans beaucoup d'affaires non résolues?
Non, bien évidemment non. Et d'ailleurs, Patrice Allègre, mais ça n'a pas été médiatisé, nous l'avons exclu de multiples meurtres. Mmh. Non, alors ce que je tiens à dire tout de même, c'est que les dossiers qui avaient été... qui avait amené à sa mise en examen, pas seulement sous mandat de dépôt, les 5 nouveaux dossiers, s'ils ont été refermés, ce n'est pas par... à ce qu'il contenait comme élément à charge ou à décharge ou insuffisant, c'est pour des faits extérieurs, du volet 2, on va dire, de l'affaire Allègre. Mm-hmm. Donc, le fait que ces dossiers aient été refermés, sachant que ces dossiers quand même partaient aux assises, le parquet, l'instruction et le parquet général avaient validé l'état de ces dossiers, avaient considéré que les éléments étaient suffisants pour organiser une deuxième session d'assises.
Donc, vous demeurez persuadé malgré tout, donc qu'il a tué beaucoup plus qu'on ne l'a dit. Est-ce que vous avez chiffré ce...
Non, je suis totalement incapable de chiffrer. Maître Alfort vous a dit tout à l'heure, en reprenant le professeur Zaguri, si Patrice Allègre demain dit tout ce qu'il a dit, je suis moi-même effaré, Maître Alfort aussi, tout le monde sort de la salle. On est tous convaincus. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes devant un déni de justice par rapport à ces dossiers qui auraient dû... Je ne suis pas sûr qu'il ait tué les personnes pour lesquelles il avait été mis à examen, mais il appartenait à la cour d'assises de le dire. Les mettre à la poubelle insidieusement. Ouais. Donc, c'est un déni de justice.
Non, mais ça n'a pas été mis à la poubelle insidieusement. Ça n'a pas été mis à la poubelle insidieusement. les juges d'instruction ont estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments. Oui. Le parquet, le procureur de la République, procureur général ont estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments. Donc Patrice Allègre n'a pas été renvoyé devant la cour d'assises.
Pour ne pas continuer à soulever des éléments gênants par ailleurs. Il y a eu une certaine valse de magistrats. Mmh. D'ailleurs, le procureur de la République Bréard, qui a quitté subitement Toulouse, a rédigé un rapport qui ne comporte pas que Patrice Allègre, on est bien d'accord. Mais je tiens à dire aussi que nous sommes en 2014. 2014-2015, sachons-le tous, c'est la prescription pour de très nombreux cas de dossiers qui, moi je les avais à main, ont encore aujourd'hui en leur sein la possibilité d'amener à la vérité, à savoir qui a tué ces victimes. Donc, ne laissons pas tomber la prescription, il faut peut-être que certaines personnes bougent. La chancellerie, si elle communique ce fameux rapport numéro 8 PG05 dans les dossiers, la prescription sera interrompue et d'autres finiront, j'espère encore, ce que nous n'avons pas pu terminer.
Ouais. Quel est votre point de vue, Jean-Marc Ducos?
Alors effectivement, ça laisse un goût d'inachevé, mais effectivement charger Allègre a été, je pense, une erreur stratégique. À l'époque, l'Office central de la répression de la violence faite aux personnes a retravaillé sur ces dossiers. Ils n'ont pas pu incriminer Patrice Allègre, mais peut-être que comme c'était le cas dans Lyon, peut-être que plusieurs prédateurs ont travaillé sur la même
ça
région.
C'est au moins le cas pour une histoire, puisque de mémoire, on avait trouvé, la PJ avait considéré comme un suicide la mort de quelqu'un quand même qui avait été retrouvé dans une situation qui était
avec
peu compatible.
Avec une culotte enfoncée jusqu'au fin fond du larynx.
Oui, entre autres. Bon, alors en l'occurrence aussi... là, ça n'était pas Patrice Allègre. Je crois qu'on a trouvé l'assassin.
On a trouvé l'assassin, mais ça montre aussi l'incurie de certains services de police. Je dis bien de police au sein de la ville rose à l'époque.
Alors, le meurtre d'Adja Ben Youssef n'a pas été solutionné. Hein. Je me dois de vous corriger. Effectivement, ne croyons pas que la cellule homicide 31 avait pour but de charger Patrice Allègre. Elle avait déjà pris le maximum. Nous ne pouvions pas lui faire subir un jour de prison supplémentaire. Nous enquêtions sur des faits. Et c'est ce qui, d'ailleurs, grâce à l'efficacité de l'analyse criminelle, nous a fait révéler des choses qui sont effectivement devenues très gênantes. Voilà.
Bon, alors, je crois que là,
on sait aussi dans quelles circonstances est parti le procureur Bréard. Voilà. Alors, l'inspection des services judiciaires qui a été meurtrière pour lui et sa gestion du dossier.
Elle aurait pu être meurtrière pour bien d'autres.
Donnez une chance, Jean-Marc
Ducos. On en rediscutera.
Donnez une chance tous les deux aux auditeurs qui sont un peu largués comme moi sur ces aspects de ce dossier qu'on ne connaît pas nous par cœur. Il nous reste vraiment deux petites minutes. Je voudrais me tourner pour ces deux minutes vers Maître Alfort. Quel est l'avenir judiciaire là, l'avenir carcéral de Patrice Allègre? C'est quelqu'un qui va passer toute sa vie en prison?
Nous en parlions hors antenne avec Monsieur Roussel. Toute sa vie en prison. Je crois qu'on n'a pas le droit de tuer l'espoir. Tout homme, si jamais on indiquait à Patrice Allègre aujourd'hui qu'il ne sortirait jamais de prison, on en ferait une bête fauve qui n'aurait plus rien à perdre.
À partir de quand peut-il faire des demandes de libération conditionnelle? Il a été condamné donc en 2002, l'affaire date de 97.
Oui. Il a une peine de sûreté de 22 ans. C'est-à-dire avant 22 ans, à compter du jour de son incarcération, ce n'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. À l'issue de cette période de sûreté de 22 ans, qui arrive à expiration, je crois qu'on en parlait avec monsieur.
Dans
5 ans.
Un quinquennat.
Il pourra solliciter une remise en liberté, conditionnelle, etc. Enfin, je doute fort, compte tenu de sa personnalité, de son profil et des crimes qui lui sont reprochés, qu'un collège d'experts psychiatres estime que sa sortie
qu'il ne récidivera pas.
Je pense que il ne faut pas s'inquiéter, si je puis dire, et Patrice Allègre ne sortira pas au bout de 22 ans de prison. En tout cas, je ne le crois pas.
Il faut surtout ressortir les dossiers doivent ressortir, et des placards où ils sont trop insérés, y compris le meurtre de Robert Boulin, qui peut être emblématiquement le message fort d'un retour en confiance des Français vers la justice.
Voilà, mais écoutez, ce qui est dit est dit. Merci beaucoup Michel Roussel. Merci Maître Alfort de nous avoir éclairés tous les deux depuis Toulouse donc sur cette affaire Allègre. Merci Jean-Marc Ducos.
Merci Jacques.
Vous aviez suivi à l'époque évidemment tout ce dossier et les deux volets de l'affaire Allègre pour votre journal Le Parisien aujourd'hui en France. L'émission est terminée. Dans un instant, on retrouve Flavie Flamand.